Salut les smarts et salut les marques et bienvenue sur Catch Up, votre podcast qui transpire le catch. Alors ce soir une émission un peu spéciale, je suis l'amiral Armbar et donc qui dit émission exceptionnelle, cast exceptionnel aussi puisque je suis accompagné et ce n'est pas habituel donc de IRM. Salut IRM, comment ça va?
Salut amiral, ça va très très bien.
Et bah parfait, et Hank aussi qui est là, comment ça va
Hank? Salut. Salut, ça roule. Je récupère de mon périple, justement, de NXT Paris.
Ah, un périple.
Encore, carrément. Encore aujourd'hui.
Ah, les provinciaux.
Oui, parce que je suis revenu en bus. Voilà, il faut préciser pour les auditeurs, je suis revenu en bus, je n'ai pas dormi de la nuit. Quelqu'un m'a ronflé dans l'oreille. Voilà.
VDM.
Le début d'une feud, donc.
Ouais. Ah, bah, il est un peu trop grand pour moi, il me fait peur.
Hank versus son voisin de bus, son voisin d'autocar.
Parce que pourquoi pas. Eh ben parfait, alors du coup t'es rentré en bus de Paris puisqu'on était tous les trois.
On va vraiment en parler.
Ouais, pas du bus mais au moins de la raison pour laquelle t'étais à Paris et pour laquelle tous les trois on était ensemble et aussi Giscal qu'on salue qui n'est pas là pour la review mais qui était avec nous. Puisque donc c'était pour NXT Live à Paris, la première fois que le show jeune se produit en France. Il était déjà venu en Angleterre l'année dernière pour le Download notamment, il était encore cette année, mais pour la première fois, donc c'était le 11 juin au Cirque d'Hiver, ils étaient à Paris. On en profite pour saluer Camille Bourg et les autres sur le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous avez été aussi présents sur le show, hein, qu'on voit un petit peu qui du Catch Up Universe y était. Donc déjà, le lieu, les poteaux, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Cirque d'Hiver?
Moi, un lieu magique, un lieu rond, tout d'abord, un cercle. Non, mais effectivement, quand tu entres, voilà, centrique, voilà, très circulaire. Moi, j'avais commencé à regarder des photos, hein, notamment pour voir un peu les places où on serait, toi, parce que c'est toujours de trouver les meilleures places, et quoi t'achètes sur sur plan, etc. Du coup, j'étais là, puis je commençais à regarder des photos, puis c'est pas facile hein, de se faire une idée, parce que personnellement, je n'y étais jamais allé. Mais du coup, le lieu, oui, effectivement, tu arrives, et c'est vrai que c'est une piste de cirque, quoi. Hein. T'es vraiment, c'est assez rond, donc effectivement, t'es vraiment comme dans une arène, et il y a une proximité qui est dingue, parce que moi, je me suis dit, mais attends, le ring, il va être tout petit au milieu de justement hein, de la fameuse piste, et les sièges vont être super, super loin, quoi, dans ces proportions. Enfin, voilà, toute proportion gardée, mais quand on est arrivé, qu'on s'est posé, alors déjà tu entres, c'est magnifique, hein, les rideaux, enfin c'est resté dans son jus, comme on dit, dans les couloirs, etc.
Dans
tu as l'ouvreuse, tu as l'ouvreuse qui nous a. L'ouvreuse qui nous accueille, il fallait pas oublier la pièce. D'ailleurs, quelqu'un a dit que Chéreau avait oublié sa petite pièce pour l'ouvreuse.
Non.
Carton jaune pour monsieur Chéreau.
T'as lu ça dans les dirt sheets sur c'est une rumeur,
les
c'est pas
dirt
vrai.
Sheets, ouais, les dirt sheets.
Et non, on peut pas lui faire de reproche parce qu'il a pris une photo avec nous après. Donc,
c'est vrai.
Ce n'est pas moi qui ai fait cette remarque. Moi, je ne fais que reporter ce qui a été dit. Après, je ne juge pas. Ça arrive à tout le monde de ne pas avoir de la monnaie. D'ailleurs, tout le monde n'était pas habitué. Tu voyais les gens des fois qui arrivent. Ah, quoi, il faut donner quelque chose. Enfin, toi, t'arrives, tu sais pas forcément. T'as pas l'habitude parce que t'es vraiment dans une ambiance un petit peu. Qui date d'un autre temps. Donc je trouvais le lieu vraiment super et on verra d'ailleurs que certains catcheurs sont fait plaisir en profitant de la configuration du lieu et on était bien placé, c'est un peu serré quoi, mais du coup ça contribuait vachement à l'ambiance et il faisait chaud, il faisait très très chaud.
Et oui, c'est vrai que les catcheurs eux-mêmes avaient montré durant les matchs par certains petits gestes qu'ils avaient effectivement très 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 chaud. Hein. C'était d'ailleurs le The Undisputed Era, je crois, qui était les trois en nage au bout d'à peu près 2 minutes 30. Hein. Record battu. Donc ouais, on montre un peu à l'écran, pour ceux qui regardent la vidéo YouTube, hein, une photo qui a été prise. D'ailleurs, de très 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 belles photos sur le site www.com hein, qui ont été prises durant le show. Là, c'est ce bon vieux Tommaso Ciampa au centre du ring. On voit le décor, les rideaux rouges dont tu parlais. C'est effectivement assez magnifique. Et toi, Hank, du coup, t'étais aussi, tu avais dit que c'était le meilleur inside ever que t'as eu, il me semble.
Ouais, et il y a des très très belles vidéos aussi sur le Twitter Ketchup CDC,
Oui.
n'hésitez pas, que j'ai tweeté. J'ai passé, bon, on va dire, c'est la première moitié du show, j'ai quand même balancé pas mal de photos et de vidéos. Mais ouais, alors, moi j'étais séparé de tout le monde. Parce qu'on n'a pas, je sais plus, on n'a pas commandé nos places exactement au même moment et tout ça. Et du coup, moi, j'avais pris Ringside, genre j'ai mis CNXT, je mets tout le pognon, all-in.
attention, on peut plus utiliser ce hashtag.
Ouais, d'accord. Bon, bah, je ne sais pas comment le dire. Mais bref,
Tout dedans.
donc j'étais tout dedans. Voilà, j'ai encore
Tout de
plus.
bonne.
Et j'étais déjà allé au Cirque d'hiver, mais il y a longtemps. Très très longtemps, genre plus de 10 ans quoi. Et je sais pas pourquoi j'en avais le souvenir que c'était plus grand que ça. Et c'est vrai
Ah,
que
t'étais plus petit.
on rentre. Oui, tu me l'as déjà
La
fait.
taille d'un centon, tu étais un enfant, quoi, à l'époque.
Voilà. Non, enfin, je vais avoir 13 ans, un truc comme ça. Mais bref. Et c'est juste. Rien que le fait d'arriver dans la salle est hallucinant. C'est comme ouais voilà c'est comme voir une espèce de style baroque à mort avec des dorures de partout, des moulures, du rouge. C'est un écrin de dingue, même pour un cirque, hein, même si vous êtes allé voir un grand cirque sous un chapiteau, je veux dire, ça a rien à voir quoi. C'est un monument, enfin. Je sais même pas s'il est classé monument historique, mais je pense qu'il est classé monument historique, le Cirque d'hiver, parce que c'est juste incroyable quoi, visuellement quand on rentre là-dedans. Et surtout, en fait, c'est très particulier comme cadre pour un show de catch, parce que sûrement du fait que la salle l'autorise pas, il n'y avait pas de barrière, y a aucune barrière.
Eh oui.
On a une estrade qui est en face, qui est à quelque chose comme, je sais pas, 50 cm de hauteur, mais il n'y a aucune protection entre les catcheurs et le premier rang, quoi. C'est Velveteen Dream s'est amusé à monter sur le bord tout autour,
Tout à
fanfaronner devant
fait.
le public. Donc
Nikki Cross aussi,
moi
d'ailleurs, c'est ce qu'on voit à l'écran à l'instant sur son entrée. Elle
je...
était effectivement à
Ouais.
un mètre du public, hein, donc il y avait une interaction, une proximité assez intéressante et assez inédite.
Et là où j'étais, donc j'étais au troisième rang, donc du coup par rapport juste au sol, j'étais à 6 mètres du début du ring, quoi, un truc du genre. Et j'avais une vue, mais en plus j'ai eu de la chance que tous ces passages où ils montent sur le poteau pour se montrer au public, la majorité des catcheurs étaient pile à mon angle. Donc
T'avais
voilà.
repéré.
J'ai eu Giscal qui a tenté de me faire venir vers vous plusieurs fois en disant ouais, il y a de la place et tout ça. Je fais ouais, on va voir plus tard. Et puis finalement, non, je pouvais pas.
Ah mais c'est bien, on a positionné plusieurs membres de l'équipe aux quatre coins, ils étaient encerclés par Ketchup.
Par contre, Waves est méga chaud et heureusement que le show a pas duré plus que ça parce que je pense que là, on serait arrivé. S'ils avaient fait 3 heures de show, là, je dirais ouais, la dernière demi-heure, ils commençaient à faire vraiment chaud, quoi. Genre
On veut
dans
la clim.
la salle.
Ouais, c'est ça.
On veut la clim.
C'était un des meilleurs chants, je pense, de la soirée. En tout cas,
On
voilà,
appelle à l'aide.
ouais, le lieu était vraiment magnifique. Moi, c'était la première fois que j'allais au cirque d'hiver. C'était vraiment une bonne découverte. Et puis, en plus, là, tout le monde était bien placé, quoi. Il n'y avait aucune barrière qui gênait la vue. Il y a juste, je crois, quelqu'un qui nous a dit, je crois que c'est les poches, justement, de Félix et Mehdi de This Podcast qui disaient qu'ils avaient à mon nez un vigile qui était un peu devant.
Ah ouais.
Ouais, voilà. Mais bon, à part ça,
Le
c'était quand
vigile,
même.
la
qui
dernière chose.
s'intéresse
un peu trop à ce qui se passe, tu sais, le vigile. Ah, mais
Ça.
ça a l'air pas mal, ce
Ouais,
petit
ouais.
spectacle.
La dernière chose à noter aussi par rapport à un ringside habituel. Enfin, moi, j'en ai juste fait un, justement, la semaine de. Le seul ringside que j'ai jamais fait, c'était la semaine de WrestleMania, mais c'était pour un show indé. Mais c'est un peu la même pour la WWE, c'est-à-dire que c'était quand même des chaises assez banales. Même la WWE, vous pouvez lâcher vos 1 000 $, enfin plus de 2 000 $ pour WrestleMania pour être dans les premiers rangs, vous allez avoir une chaise de merde. Et le cirque d'hiver, tu payais, bon, moi j'ai payé un peu plus, mais même les gens qui étaient au-dessus, qui avaient payé, je sais pas moi, dans la cinquantaine ou même un peu moins d'euros. C'est des chaises molletonnées, cuir, oh là là, mais c'est mieux qu'au Cinoche, quoi.
C'est clair. C'est un peu pour ceux qui connaissent les sièges du MK2 rouge, effectivement, bien, bien confortable. C'était un peu la même chose. Et c'est vrai que c'est plutôt agréable quand on reste 2 heures pour gagner un show. C'était
bah nous,
cool.
En général, on avait des nos petites chaises dans notre petite loge. On était bien aussi, là.
C'est vrai, ouais. Carrément.
Ah, désolé.
Ma petite loge.
Je savais pas qu'il y avait des chaises dans les loges.
Donc, ce premier show NXT, du coup, ce qui était bien aussi, c'est qu'il y avait un Titantron hein, qui était installé au Cirque d'Hiver. Donc, on a eu droit au vrai Titantron des catchers, ce qui n'est pas toujours le cas dans les shows live, hein, même la WWE. Parfois, c'est pas sur place. Donc là, c'était plutôt bien. Puis l'entrée aussi, voilà, était vraiment très, très classe. Donc, on avait eu un show de 2 heures, en gros, hein, 2 heures et quart, il me semble, avec donc, de fait, une affiche de live event avec quand même un certain petit parfum de preview de TakeOver, hein, puisque TakeOver Chicago 2 est dans quelques jours, c'est samedi. Donc forcément, les rivalités actuelles qu'on a vues lors du show sont celles qu'on va voir au TakeOver. Donc on va profiter, on va passer en revue la carte de ce Live Event Paris. Et en même temps, en profiter aussi pour mettre nos petites pièces habituelles pour les pronos pour TakeOver. Alors le premier match, lui, bah, il n'y a personne hein, qui, dans ce match qui a un match à TakeOver. C'est plutôt un match de... un très bon opener classique dans le style, puisque donc c'est un match tag team entre donc Heavy Machinery, hein, Tucker Knight et Otis Dozovich, contre cette faction qu'on ne connaît pas encore à NXT TLA, puisqu'ils ne sont pas encore apparus, The Forgotten Sons, les fils oubliés, composés donc de Wesley Blake et Steve Cutler. Wesley Blake était d'ailleurs un ex-tag team champion avec Buddy Murphy et Alexa Bliss hein, il y a quelques temps. Donc voilà, un match qui a été remporté ben évidemment par les Faces, hein, par les Heavy Machinery, avec le compacteur. Juste après, bien sûr, que Dozovic ait fait son spot avec en faisant le Caterpillar, l'espèce de verre suivi d'une tombée de coude.
Disponible sur le Twitter, je l'ai filmé.
Et ouais, voilà, vous voulez voir le Caterpillar qu'a fait Dozovic à Paris, allez voir sur Twitter. Alors, ce premier match, cet opener, Hank, qu'est-ce qu'on a pensé?
Parfait. C'était l'opener parfait pour le show. Ils ont mis l'ambiance Dozovic. Alors, je me répète parce qu'on a fait un podcast avec 10 podcasts. Donc, si vous voulez aller le chercher, c'est pas encore dispo, mais je pense dans les jours qui viennent. Mais Dozovic est over à mort. Ah ouais. À méga mort. Tout le monde l'aime. Et ça fait presque de la peine pour Tucker. Hein, parce que dès que Tucker tag, là, du coup, ça se calme un peu. Mais ouais, ils sont très drôles, ils sont potaches. Il y a des gens qui aiment pas le côté potache des Heavy Machinery. Moi ça me va. J'ai peur que justement on les fasse verser totalement dans le ridicule, parce qu'à NXT, ce qui est bien, c'est qu'il y a le bon dosage, quoi. On les voit pas tout le temps, on les voit pas toutes les semaines, etc. Donc dès qu'on les voit, c'est sympathique. Ma seule déception de ce match, mais alors c'est vraiment personnel, c'est parce que j'attendais comme deuxième équipe, je voulais absolument voir Tino Sabatelli.
Ils sont blessés.
D'accord, ok. Ouais. Mais oui, je précise, oui, donc, du coup, j'ai un peu de retard sur les épisodes d'NXT, un peu les news en ce moment. Mais oui, donc du coup, j'aurais trop aimé Boo et Tino.
Ouais, ça aurait été
mon grand plaisir. Mais génial, l'opener. Alors, bon, c'est pas du gosse, vous n'allez pas voir du grand catch tag team non plus. Mais pour ce qu'ils font, ils le font très très bien. Et voilà, ça marchait parfaitement. Les heels ont été boués, les faces ont été applaudis. Tout se passe bien.
Très bien, ouais. IRM, toi ?
Alors, Amiral, je suis désolé, mais c'était un très mauvais opener. Pourquoi ? Ouh. Parce que ce n'était pas l'opener de la soirée. Tu as oublié un match. Il y a eu un single match avant entre Zach Gibson et Tyler Bates.
Non, non, ça c'est après.
Non, c'était après.
C'était après, mais oui.
Loupé.
Trop de bière, hein. T'as bu trop de bière.
J'étais persuadé que c'était celui-ci, bah autant pour moi, écoute, dans ma tête, c'était vraiment ce premier match-là qui était là, du coup, je trouvais que c'était une drôle de façon de commencer le bal. Bah écoute, c'est marrant parce que pour Otis, je t'en ai parlé à Miral pendant le show, je te disais, bah tiens, c'est marrant, en ce moment, je venais de regarder Breaking Ground, et Otis apparaît en fait dans Breaking Ground, donc l'émission sur les rookies au Performance Center, il fait tout genou et c'est le moment où ils doivent faire leur fameuse essai de promo, face à William Regal, qui est là, impassible, qui les juge, quoi. Et lui, il est là, et au début, tu sens que c'est un peu la galère, quoi, pour lui. Puis t'as la musique qui monte, genre on se dit, oh, lui, il va pas rester longtemps. Et tout d'un coup, il fait, ouais, sinon, j'ai un truc que je sais faire. Et c'est là où il commence à faire le saut, enfin, le
Caterpillar, ouais.
Caterpillar, voilà, il roule et là tout le monde est mort de rire et là tire à loin champion. Effectivement, il est allé loin puisque ce soir-là, il a embarqué la foule et là, franchement, il y a vraiment typiquement ça, ça marche super bien au show et là, ils ont fait du super bon boulot pour chauffer la salle. Du coup, c'était un très bon opener, mon amiral. C'était la meilleure façon de commencer la soirée.
Ouais, c'est clair. En plus, c'était très classique. Hein. Les méchants, même si on les connaît pas à la télé, ils étaient très identifiables avec une bonne musique.
J'ai bien aimé.
Ils vont arriver bientôt, je pense, à NXT TV, c'est clair. Hein.
Ils sont un peu motards. Il y avait une histoire d'ancien Son Jay aussi qui montait une espèce de faction avec. Comment elle s'appelle ? Lacey Evans, ouais. Mais c'est un peu mis de côté, visiblement.
Oui, parce qu'elle marche bien en solo, elle, à la télé, donc du coup. Mais bon, voilà, bientôt, les Forgotten Sons, je pense qu'on les verra effectivement à la télé. En tout cas, voilà, pour commencer la soirée, c'était parfait, c'était très clair, très compréhensible. Qui étaient les gentils, qui étaient les méchants, c'était très bon.
Ils grognaient aussi, c'est du coup, nous, tout le monde grognait dans le public aussi.
Taqué, taqué.
Chucky, Chucky.
Après ce match drôle, potache et léger, donc qui n'était pas l'opener, mais le second match, un match très différent, lui beaucoup plus technique. C'était donc effectivement un match très british, puisque c'était Tyler Bate, l'ancien champion UK, contre Zach Gibson, hein, quelqu'un d'autre qu'on n'a pas encore vu à NXT TV, mais qui est dans le UK Tournament de cette année. Et qu'on va certainement apprendre à connaître de plus en plus. Donc les deux se connaissent bien, ils sont anglais, donc British Strong Style et ce côté très mat wrestling. Bate qui est ultra over avec la foule, hein. Tout le monde faisait son petit geste pour dire bonjour, salut. Il y avait, je crois, pas une seule personne qui le faisait pas. Gibson se faisait bouer, quel rebelle celui-là.
Bah, il avait deux bières, une dans chaque main, donc c'était pas facile.
Ah oui, je comprends. Dans ce cas-là, je comprends. durant le match, il y avait quand même un petit peu de comedy wrestling puisque Tyler Bate faisait son coup un peu classique où il se met empouraillé contre le poteau. Il l'a fait une fois, il l'a fait une deuxième fois, ce qui a commencé à énerver Gibson. Et puis à un moment donné, il y a eu ce moment absolument génial où Tyler Bate le fait, Gibson pensant l'avoir envoyé en catapulte sur le poteau. Puis il entend bien qu'il n'y a pas de cri de douleur. Donc sans se retourner, Gibson il demande à l'arbitre, il fait, il est en train de faire sa connerie là, c'est ça ? Puis l'arbitre qui regarde, il fait. Ouais, c'était un très bon moment, tout le monde a explosé de rire. Le match se poursuit et à la grande surprise générale, c'est Tyler Bate qui perd suite à une prise de soumission, un double whistlock. Donc Tyler Bate qui abandonne face à ce Zach Gibson. Ton impression, IRM, sur ce match et sur ce finish surprenant?
Alors, j'ai bien aimé le match, quoi. Ça restait divertissant. Il y avait effectivement un bon petit mélange entre vraiment, brutalité, enfin, le strong style britannique, et puis la comédie apportée par ce petit impertinent de Tyler Bate. Donc, ça a plutôt bien marché, même si, voilà, tu sens que ça monte, ça descend, enfin, en termes d'intensité et de communion avec la foule. Ouais, je trouvais que Tyler Bate n'était pas encore au niveau de l'interaction avec la foule, toi, c'était pas le grand délire non plus. Et c'est vrai que pour le résultat, je pense que ça en étonnait plus d'un. Alors, est-ce que le tournoi UK approchant, on essaye de donner un peu de ring cred à Zach Gibson, qui s'est mangé pas mal de chants Who are you, t'es qui. D'ailleurs, il a intelligemment répondu sur son compte Twitter en disant en français je m'appelle Zach Gibson. Il a répondu au taunt intolérant de certains fans du cirque d'hiver. Donc moi ça m'a diverti, j'aime bien parce que j'aime bien le strong style, même si on verra un peu plus tard les vrais coups et les vrais claques et tout ça arriveront un peu plus tard.
Ouais.
Donc c'était un bon faux opener.
Et toi, Hank?
Mitigé en fait sur ce match. Je vais arrêter de dire que je me répète. Je vais me répéter parce que par rapport à tout ce qu'on a dit ce soir, alcoolisé juste à côté du cirque d'hiver. Tyler Bates. J'ai besoin qu'il prenne une décision sur sa personnalité et je trouve que des moments il est trop dans la comédie, il est trop dans le lol. Et du coup, moi, un peu ça va quand il refait pour la deuxième ou troisième fois sa chandelle là, dans le coin. Je fais « Mec, catch, quoi. J'en ai un peu marre, quoi. J'ai déjà eu un match comique juste avant. J'ai eu ma dose, en fait. J'ai pas besoin que t'en refasses encore des caisses, quoi. Je comprends qu'on est en live event et qu'ils se permettent et que bah, ils donnent tout à Full Sail, au Takeover. Il peut voilà, faire des matchs 5 stars, comme on l'a vu avec Pete Dunne. Mais voilà, là, tu vois, c'était le moment pour nous montrer du pur catch et nous montrer des trucs, voilà, des trucs qui font sursauter un petit peu. Et je trouve que c'était très, voilà, c'était un peu facile, voilà. Okay. J'ai trouvé que ce qu'il a fait dans le match, j'ai trouvé ça un peu facile et que il aurait pu nous impressionner un peu plus, surtout que son adversaire, moi, m'intéressait pas plus ouais. que ça, on le connaît pas et tout ça. Donc du coup, c'est quand il y a un adversaire que les gens connaissent pas et que de l'autre côté il y a un mec qui est un peu connu mais qui est pas non plus la plus grosse star de NXT, faut qu'il y ait du show, quoi. C'est censé faire. Il est censé avoir le rôle du mec explosif, technicien, tout ça. Je ne l'ai pas trouvé si explosif que ça.
Après, comme dit sur le chat, on salue Galuf et Richard qui sont arrivés et nous ont rejoints. Camille disait effectivement que le mélange un peu comique sérieux des Britanniques, hein, ils sont un peu inspirés du style japonais à ce niveau-là. C'est vrai qu'on peut un peu regarder ce que faisait Tyler Bate à l'époque du British Strong Style du Moustache Mountain. Il y a un petit côté effectivement un peu comique. Et la dernière fois qu'on a vu Tyler à la NXT en équipe avec Trent Steven, il y avait beaucoup de petites blagues, de petites blagounettes comme ça. Après, c'est clair. Oui. On peut se dire on voit le potentiel de Tyler Bate, peut-être que devenir un peu plus sérieux, ça serait plus intéressant sur le long terme. Hein. Après, il a encore toujours que 22 ans, le bonhomme. Donc,
Je l'avais aussi vu à mince, comment ça s'appelait, WNN. Non, c'était Evolve. Ouais, je crois que j'avais vu à Evolve avec Trent Seven justement la semaine de Mania et ça marchait très bien, mais ça marchait très bien parce que c'est un match tag team, je trouve. C'est-à-dire que le rythme change en fonction de quand il y a des tags. Là, on repasse au catch, après on repasse à l'humour, etc. Là, j'ai trouvé qu'en un contre un, je m'attendais à quelque chose de voilà, quelque chose de plus vénère. Et comme je disais, on avait un match comique juste avant, donc.
Autant casser le style. Ok. Après voilà, assez surprenant hein, ce finish avec cet abandon de Bate. Je me rappelle, on s'est regardé à travers la salle, genre. Ouais.
Incompréhension là. Ouais.
Est-ce que toi aussi de ton côté de la salle, t'as vu la même chose?
C'est ça.
Oui, ouais. c'est le même finish de mon côté.
Non mais vous aviez un bon angle pour voir la fin. Moi j'ai juste entendu la décision en fait, ouais. Mais je voyais pas, je l'ai pas vu taper en fait.
Donc, exact. Et oui, ouais. Donc on verra bien hein, ce que ça a donné ce tournoi UK. Est-ce que Gibson peut-être va être celui qui sortira grandi gagnant de cette année? On verra bien. La suite, c'est avec ces dames, puisqu'on a un match tag team entre, d'un côté, eh bien, Lacey Evans et Bianca Belair, pour le côté heel hein, de la force, et Dakota Kai, qui devait normalement catcher avec sa partenaire de la Team Kick, à savoir Stephanie Noel, hein, mais qui a été blessée le week-end juste avant au Donne Festival en Angleterre. Une blessure très grave, mais quand même, qui a fait qu'elle n'a pas pu catcher. Mais elle a trouvé un remplacement de choc, puisque c'est ni plus ni moins que Candice LeRae, Candice Wrestling, qui a fait équipe avec Dakota Kai. Donc, belle pop hein, d'ailleurs pour Dakota quand elle est arrivée et bien sûr pour Candice derrière. Les gens étaient pas mal aussi hypés par Bianca Belair. Lacey Evans a récolté la plupart des boos du public. Donc, majoritairement pendant le match, les heels ont travaillé sur Dakota Kai jusqu'à ce qu'elle fasse un hot tag avec Candice LeRae. Et puis, il y a eu de la mauvaise communication entre les deux heels, entre Lacey Evans et Bianca Belair, qui a fait que ben, Candice a pu tirer son épingle du jeu et faire le tomber sur Lacey Evans. Et juste après la victoire des Faces, les deux heels, hein, Lacey Evans et Bianca Belair, ont commencé à se s'engueuler, voire se bastonner, tout en quittant le ring jusqu'à passer derrière le rideau, hein, backstage. On les voyait encore se chercher des noises. Donc voilà, petit match, là aussi tag team assez classique, hein, féminin. Content, surprenant de voir Candice LeRae qui n'était pas annoncé. Hank.
Ouais, non mais c'est le remplacement de luxe.
Ah tiens.
C'était les deux meilleurs babyface en ce moment, enfin je pense. Contre peut-être pas les deux meilleurs heels parce qu'il y a Shayna à côté, mais
ouais, les top heels de demain quoi.
Lacey Evans, il y avait des gens qui l'abouaient, mais moi j'applaudissais. Mais après bon, j'étais j'étais au bon endroit. Non, on va dire, j'ai pas fait exprès, mais je me suis retrouvé pile à l'angle où on voyait chacune de la team Hill se mettre face au poteau. Donc j'étais, si vous voyez bien, dans le sens où on regarde leurs fesses pendant tout le match.
Ah, t'as eu du mal à le dire, mais tu l'as dit, ça y est.
Voilà. Enfin.
Mais t'es aussi.
Non, j'ai cru que tu ne comprenais pas. Je regardais ton visage, j'ai cru que tu ne comprenais pas.
Moi, je savais où tu allais, mais je voulais te voir comment tu
es. J'ai essayé de dire ça poliment avec grâce. Mais non.
Les Royal Fessiers de ne disputent pas. Voilà. Thomas, tu
n'aimes pas. Ouais, ouais, que le match a eu un petit. Voilà. Un autre goût comme ça. Non, j'ai trouvé très bien ce match. Et puis Lacey Evans fait un super boulot de heel. Ouais. Elle va chercher le public. Il y avait un mec à côté de moi qui lui a sorti, qui était genre. Le mec à côté de moi, des moments, il gueulait. Et à chaque fois qu'il gueulait, il gueulait avec une voix suraiguë. Ce qui était, à mon avis, très dérangeant pour sa copine qui était à côté. Mais. et du coup, je sais plus quelle insulte il a sorti à Lacey Evans. Mais elle l'a regardé droit dans les yeux. Elle s'est arrêtée. Et voilà, elle a rangé pas mal le public. Bianca Belair, toujours incroyable de la voir. Enfin, on le voit à la télé, mais de la voir soulever des gens.
Elle a un physique.
Ouais, incroyable. Et voilà, Candice LeRae, explosif. Dakota est mignonne comme tout. Voilà, c'est que des gens que j'aime. C'était un bon match. Et puis c'est surtout. Non, mais elles font toutes bien leur boulot. C'était pas un match exceptionnel, mais c'était vraiment c'était juste un bon match et une super ambiance quoi. Là pour le coup, le public, je trouve, le public s'est réveillé par rapport au match d'avant, était un peu plus, même si Bates a sa petite pop, là le public était vraiment, on était reparti du côté catch traditionnel, boue, applaudissements, etc. C'était vraiment bien.
IRM, hein. Ce match tactique, ouais. Féminin.
Ouais, alors Dakota Kai, il faut qu'elle prenne la peine de faire tout le tour et de taper dans toutes les mains si elle veut être la top babyface de demain, ce qu'a fait Candice LeRae. Parce qu'en plus, là, c'était pas compliqué. Hein. C'était un cercle, comme l'a dit Hank, il n'y avait pas de barrière d'insécurité, donc il y avait vraiment, il fallait se faire plaisir et à taper dans les mains. Mais bon, Dakota Kai, moi, depuis que je l'ai découverte au tournoi, hein, Mae Young Classic, c'était une de mes shoots. Chouchou et Bianca Belair, pareil, hein, au top. Alors d'ailleurs, comment dire, c'est Lacey Evans et Bianca Belair, elles ont vraiment un charisme de dingue qui, du coup, faisait presque ombrage à Dakota Kai et Candice LeRae, qui, bon, Candice LeRae, elle est over the top parce qu'elle est prise en plus dans cette histoire avec Johnny Gargano, le chouchou du public. D'ailleurs, c'est très pratique, hein, ces couples qui voyagent ensemble et du coup qui peuvent dépanner. En cas de blessure, d'ailleurs c'est marrant que c'est elle qui fasse le tag parce qu'elle sauve le match de deux façons différentes. Mais c'est vrai que Lacey Evans, Bianca Belair, elles ont le total package, c'est dingue. C'était très compliqué de les huer. Alors moi, ce que je faisais, je les huais en même temps, j'applaudissais. Toi,
je me rappelle.
C'était un petit peu compliqué. Puis t'applaudis.
Ouh, vous êtes super talentueuse.
Boum, mais bravo. Boum.
Moi, je sais. Enfin, c'est pour moi, c'est important dans un côté en live de débrancher ton cerveau de smart plus intelligent que les autres. On arrête les chants CM Punk. D'ailleurs, il y en a peut-être eu un ou deux, mais pas trop. Ça
va t'arrêter maintenant. Hein. Je pense que.
Non, mais voilà, que ce soit ça ou chanter voilà, des trucs qui n'ont rien à voir juste pour jouer au plus malin. Côté dans des house shows comme ça, il faut jouer le jeu du heel et du méchant. Mais c'est vrai que là, c'était bien, bien compliqué. Donc, moi, j'ai adoré ce match. Et. Il y a beaucoup, beaucoup de matchs, mais je pense que c'était vraiment un de mes matchs préférés parce qu'effectivement, on faisait appel à l'essence même d'un match tag team
dans le catch, quoi, avec des méchantes et des gentils bien identifiés, le fameux hot tag, et à la fin les méchants plus qui s'engueulent. D'ailleurs, c'est marrant de s'imaginer que, vu qu'elles sont sur la route et qu'elles probablement refont à peu près les mêmes matchs à chaque fois, elles se rengueulent à chaque fois qu'elles font un show le lendemain, elles refont la même chose, elles s'engueulent, elles font les mêmes prises de bec. Donc ça, c'était plutôt marrant. Donc je sais pas toi si tu as vécu le match de la même façon que moi, mais...
Ah si, non, c'est très fun. J'aime beaucoup de toute façon les quatre catcheuses qui étaient impliquées, hein, de toute manière. C'est peut-être la nouvelle génération montante de Women à NXT. On en voit là ce qu'on a vu ce soir, parce qu'il y avait aussi un autre match, j'en parlais tout à l'heure. Hein. On a effectivement une petite partie du roster très 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 prometteuse. Et surtout, j'aime beaucoup le travail de personnage qui est fait par Lacey Evans depuis quelques semaines à la télé, où vraiment son personnage de heel est devenu... présent et intéressant. Bianca Belair a déjà de base tout le full package pour aller très loin. Et je ne sais pas si c'est le même avis de quelqu'un qui était là pendant le show, comme nous le signale sur le chat Richard, mais pendant le show, il y avait aussi dans le public Julien Lepers.
Bien sûr qu'on l'a
de
vu.
De questions pour un champion. Voilà, donc il y avait vraiment Julien Lepers.
Je dis oui.
Et je dis oui.
Vous l'avez vu, vous ?
Ouais, bien sûr. Moi, je l'ai croisé en rentrant.
Mais il était un peu derrière toi, en fait.
Ouais. Et en rentrant pour aller aux places après aller acheter à boire, je le vois comme ça. Je lui fais Monsieur Lepers, et je lui tends la main pour lui dire bonjour. Et là, je sais pas. Enfin, il m'a confondu avec quelqu'un, puisqu'il m'a dit un truc super bizarre. Il m'a serré la main, il m'a fait comment ça va, toi ? T'es ressorti, ils ont rien trouvé, hein. Qu'est-ce que...
Ouais, quoi ?
Il t'a pris pour un évadé de prison ?
A priori, je sais pas, voilà. Donc
sympa.
C'était très bizarre, mais voilà, il semblait m'avoir...
Je sais pas s'il a toute sa tête, hein, Julien, maintenant.
Ouais, je sais pas. Ou alors peut-être qu'il a des phrases random, hein, des sortes de catchphrases, quand il croise des gens, c'est ça ?
Il a pas ses petites fiches sur l'écran.
Dans le doute, on balance ça, et puis les gens, de toute façon, vont dire « Oui, d'accord, non, ça va, bonne soirée. Hein. » Donc voilà, il y avait Julien Lepers qui était là. Une autre personne qui était là, mais qui est là pour le courrier au cash, c'était Jérémy Borrache, ex-commentateur de la TNA, qui est maintenant à la WWE depuis plusieurs mois, qui notamment s'est occupé à TNA de la production visuelle de Total et Final Deletion avec les frères Hardy. Et quand la WWE a enfin acquis le droit de faire le Broken Universe, eh bien Jérémy Borrache a été employé par la WWE, et on a été surpris de le voir à NXT Live Paris. C'était l'homme grosse barbe, hein, qui se fait pousser en blouson NXT, qui suivait parfois les catcheurs qui rentraient dans l'arène avec une caméra et un steadicam, et notamment il était parfois dans les gradins du public en train de filmer différentes séquences du show. On voit d'ailleurs sur le Twitter de la NXT des petites vidéos comme ça, notamment une d'Adam Cole qui rentre dans notre festival, qui est suivi derrière de très près. Et bien c'est Jérémy Borrache, donc ex de TNA, qui s'occupe de faire tout ça, du contenu vidéo.
Je savais pas quelle tête il avait, moi, voilà. Borrache, donc
J'ai balancé sur Instagram Catchup CDC, j'ai balancé une photo que j'ai prise en le signalant, et c'est vrai qu'à un moment avec l'amiral on a hurlé un peu son nom comme ça, Monsieur Borrache, on a vu qu'il avait senti qu'on l'appelait, mais
je suis concentré, j'ai
un boulot à faire, les gars,
c'est ça.
Je suis plus le Jérémy Borrache que vous avez connu.
Maintenant j'ai une barbe. Alors, continuons avec un match là aussi tag team. À la base, c'était deux matchs single qui avaient été annoncés, mais qui ont été fusionnés pour n'en faire qu'un, puisque d'un côté, on avait Velveteen Dream contre Ricochet qui était annoncé, et Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa. Et bien du coup, c'est Velveteen Dream et Ciampa versus Ricochet et Johnny Gargano pour un match donc tag team qui... très gros parfum de takeover, hein, pour le coup ici. Là, vous pouvez le voir pour ceux qui ont la vidéo YouTube, il y avait Velveteen Dream et Hank l'a posté en vidéo sur le compte Twitter, à l'intégrité de l'entrée, où contrairement aux autres, il n'est pas sorti du rideau, mais de la plateforme au niveau du titantron, et il a descendu les escaliers rouges royaux du cirque, en passant après sur le pourtour devant tous les gens. Il avait d'ailleurs un petit bonnet phrygien presque, donc tout rouge, hein, donc il joue encore le jeu du style Velveteen Dream, toujours bien sapé, même en France. Donc voilà, un match tag team où forcément on nous a teasé les rencontres qu'allait avoir à TakeOver sans forcément nous donner énormément de timing entre Ciampa et Gargano dans le ring. C'était plus effectivement Gargano contre Velveteen Dream et Ricochet contre Ciampa. On a eu des très bons spots, notamment une super kick party, hein, puisqu'il y avait Ciampa qui a fait un slam sur Gargano, Velveteen Dream qui fait son Rainmaker Elbow, puis derrière qui essaie de mettre un super kick à Gargano qui se relève, mais Gargano se baisse et Ciampa qui se prend un kick, Gargano qui remet un super kick à Ciampa, Velveteen Dream qui met un super kick à Gargano et derrière Ricochet qui débarque et lui met un super kick. Bref, le public a popé comme des dingues, donc beaucoup d'interventions forcément pendant ce match, jusqu'à ce que Gargano mette Ciampa dans sa prise de soumission, le Gargano Escape, et Ciampa a abandonné. Donc victoire des Faces hein, pour ce match. Irem, hein, qu'est-ce que t'en as pensé de ce gros match?
En parlant de Face, est-ce qu'on peut parler du chant Trouduc que tu as lancé, Amiral, pour Tommaso Ciampa?
On peut en parler, puisqu'à un moment donné...
Un beau succès.
Dans notre section, c'est bien parti, puisque forcément, Ciampa s'est fait huer. C'est le seul qui se faisait huer, parce que tout le monde était popé pour Ricochet et Gargano, mais aussi pour Velveteen Dream, qui était super drôle. Notamment, quand il est arrivé, Velveteen Dream, il faisait... il se pointait du doigt, le public faisait « Ouais !» Il pointait du doigt Ciampa, son partenaire, tout le monde faisait « Bouh !» Puis il alternait, comme ça, un peu à un cri Jericho. Puis à mon nez, au moment il va pointer pour sur lui-même
lui, quoi.
Et que tout le monde fait ouais, ben il chante au dernier moment pour pointer de Ciampa, donc du coup c'était pas mal. Mais donc Ciampa se fait huer, notamment il y avait un chant asshole asshole, et du coup on a lancé, du moins j'ai lancé épaulé par IRM et Giscal qui a pris à contaminer notre section, bah, plutôt un chant francisé Trouduc,
voilà, la loi tout bon, Trouduc. On parle français.
Exactement.
Ici monsieur,
on parle français.
Il y a eu pas mal de chants français, il y a eu des c'est pas gentil. Ou des
c'est, pas gentil. C'est pas gentil.
Il y a des arbitres de merde aussi qu'on a entendu.
Ah oui, arbitre de merde.
Et ouais, un arbitre génial aussi.
Ouais, oui, c'est ça, parce que oui, il y a eu l'arbitre qui n'avait pas vu une filouterie d'un heel, et du coup tout le monde chantait l'arbitre de merde. Et après il s'est fait pardonner en remettant les choses en ordre, et là tout le monde a chanté l'arbitre est génial, un truc comme ça, ou bravo l'arbitre. Ça c'est plutôt sympa. Voilà, ici on est en France, donc on parle français monsieur, on parle gaulois. Écoute, j'ai trouvé que c'était évidemment un super match, grosse ambiance. Velveteen Dream, il est fait pour le spectacle, il est fait pour ça. Il y a pas de doute, quoi. Ça, enfin, tu sens que le mec, à chaque fois, il va imaginer qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui de différent. Bon, évidemment, à mon avis, c'est le mec qui passe le plus de temps dans les boîtes à costumes de la WWE, parce qu'il va te chercher des trucs à chaque fois. Tu t'imagines même pas, parce que ça, le petit bonnet rouge, là, ça date sûrement de l'équipe de Québécois qu'il y avait eu il y a 15 ans à la WWE, là, la Révolution française. Et puis cette entrée est magistrale, quoi, en descendant les marches, quoi, c'était inattendu et c'était hypnotique, quoi, vraiment. C'est un grand talent, et c'est vrai que c'était pas facile pour lui, parce qu'une fois de plus on se retrouve avec un mec qui est heel et qui a la foule pour lui, quoi. Donc c'était pas évident, c'était assez culotté de le mettre avec Ciampa, même si c'est vrai que du coup ça protège évidemment les deux futures affiches, et ça crée une dynamique plutôt original et qui était inédite, hein, dans la carte de ce soir, avec ces deux heels qui clairement sont opposés en termes de réaction, quoi. On a vraiment ce heel à Ciampa qui se fait huer comme c'est pas possible, et l'autre qui est le heel qui a recueilli le plus d'encouragement. Donc moi j'ai trouvé ça magique, et même Ricochet, enfin c'est pas que je me suis réconcilié avec lui, parce que j'ai aucun problème avec Ricochet, mais non mais voilà, c'est pas juste, hein. Spock Monkey commence,
salaud.
Voilà, il arrive à se faire soulever vraiment la foule,
très,
même
très,
en prenant
over.
Beaucoup de risques, hein, parce qu'il a fait une sortie là sur la fin du match plutôt inquiétante, là où il fait un suicide dive sur Velveteen Dream, je crois, et ils sont pas bien. Thierry, qu'un arbitre qui était derrière le rideau l'a chopé
Et en fait, on l'a pas revu avant vraiment la fin de la célébration de Johnny Gargano. Je sais pas si c'était du lard du cochon, est-ce que c'était pour laisser Gargano un peu prendre la foule.
Je pense pas, parce que vraiment j'ai revu la vidéo.
Ouais, aussi.
Il s'est fait finalement un topé suicida niveau en tout petit tronc, puis il y a personne en fait, hein, puisque Vetinrim a esquivé, donc il tombe vraiment à plat sur le sol. Et quand il est remonté à la fin du match, comme on le voit un petit peu dans les images, en se drapant d'un drapeau français, juste avant, sous un des pectoraux, il avait une vraiment très 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 vilaine marque violacée sur 15 cm. Ça n'a pas dû faire du bien. J'espère qu'il ne sera pas blessé pour Takeover. Hein,
je crois que du coup, il n'a pas catché. Parce qu'il était en Belgique le lendemain.
Ouais.
Ça. Et je crois qu'il n'a pas catché du coup. Hein,
Ah merde. Okay.
Et toi, Hank, ce match-là
c'était. Non, mais c'était vachement bien. Mais j'ai presque été hypnotisé par Velvet in Dream. Et donc, du coup, j'avais du mal à regarder. En fait, J'ai regardé l'action, j'ai l'impression d'avoir regardé, la personne que j'ai le moins regardé bizarrement dans ce match, c'est Gargano, j'ai l'impression, parce que le reste du temps, il y avait Velvetine qui faisait des conneries pile devant moi, hein, 5 mètres, et puis Ricochet qui était là pour tous les spots à pirouette. Non mais je sais pas de quoi parler à part de Velvet in Dream qui était incroyable et puis on en parle souvent du fait que voir les catcheurs en vrai c'est différent etc mais God, il est taillé comme une brique Velvet in Dream.
Ah, il est impressionnant hein, physiquement. Il est plus grand, plus large que tous les autres qui étaient dans le match, hein, qui sont déjà des très bons gabarits. Ouais, ouais. Enfin, ils sont tous super secs et costauds. Mais Dream, il a une allonge, il a une amplitude corporelle. Ouais. Qui est...
Non, ouais. Mais c'était dingue. Et le match était super cool. Il nous a fait aussi le spot. Tu vois, la seule fois où il a réussi à se faire bouer, je pense, c'est il nous a refait le coup de je monte sur le poteau et je saute pas.
C'est ça. Vous c'était le voulez, marrant. Ben non, vous l'aurez pas.
Ouais, alors, j'ai juste breaking news, Triple H vient de dire, de se prononcer, oh il a donné des nouvelles de Ricochet.
Non.
Il dit que Ricochet s'est un peu tordu à Paris. Il n'est pas blessé, mais nous ne voulions pas prendre de risques avec Takeover qui arrive. Ouais. Je suis sur le site de catchpress.com, voilà, il faut citer ses sources. Le truc avec les athlètes de haut niveau comme lui, c'est que parfois il faut leur dire de se relâcher. Il s'est un peu fait mal à l'épaule, mais il va bien.
Donc c'est bon, Takeover.
Si Triple H dit ça, c'est qu'il faut être confiant.
Mais écoutez, je propose qu'on
pourra mettre un bandage babyface. Il pourra mettre un bon vieux bandage à la Cesaro, mais le garde pas 6 mois, hein, contrairement à Cesaro.
C'est pas une bonne gimmick les bandages. Mais écoutez, on va en profiter pour parler justement de Takeover, hein, puisqu'on a la confirmation grâce à IRM qu'il y aurait bien ce match. Donc premier prono pour Takeover, hein, ce match qui est marqué comme étant sur le site de WWE le roi contre le prince, hein, puisque dans les derniers NXT, les promos de Velvet in Dream effectivement parlent du roi Ricochet, référence au roi Puma. Hein, donc, et lui, c'est le prince. Donc le roi, il est obligé à un moment donné de rendre sa couronne, alors que le prince, lui, son futur, c'est de prendre le trône. Donc entre ce match, Ricochet contre Velvet in Dream, quel est votre avis et qui est-ce que vous voyez remporter ce premier affrontement, Hank?
Moi, je pense que ça va être Velvetine parce que c'est la deuxième grosse feu de qu'il a, je trouve, à NXT.
Ouais.
Et il a perdu la première contre Alistair, donc je le vois bien gagner celle-là. Peut-être la prolonger ou alors l'envoyer parce que là je pense que Triple H il est en train de se battre pour que Velvetine se tire pas dans le main event direct hein, parce que
tu m'étonnes.
On a beau adorer, j'adore Aleister Black, j'adore Adam Cole etc. Encore que Adam Cole, je sais pas entre les deux, mais en tout cas les deux mecs les plus over de NXT c'est Adam Cole et Velvet in Dream. Deux heels, mais bon, c'est surtout Velvetine, mais c'est une nouvelle fois ils vont réussir à nous prouver qu'on peut gâcher un mec qui est ingâchable. Mais donc voilà, ouais. Je vois une victoire pour Velveteen. Je pense que Ricochet a largement le temps d'accumuler les victoires plus tard. Il va faire un match terrible et voilà, il va rebondir par la suite. Mais je pense que c'est le moment pour que Velveteen la victoire.
Donc 1-0 pour le prince. IRM, est-ce que tu égalises un partout? Tu confirmes le vote de Hank?
Ah, moi, je. Voilà, c'est impossible que le prince coupe la tête du roi comme ça du premier coup. Ce sera un véritable putsch. Non, pour moi, c'est Ricochet qui va glaner cette première grosse victoire au détriment de Velveteen Dream qui, effectivement, a besoin à un moment donné de gagner, mais qui est déjà suffisamment over sans ça.
Techniquement, il n'a pas besoin. Ouais, c'est l'argument que je te donnerais, justement, c'est qu'il n'a pas besoin de gagner pour être over. C'est l'autre chose, mais bon.
Oui, ouais, bien sûr. Ils vont faire un gros match, ça c'est certain. Voilà, si on met de côté la possibilité que ça se termine de façon non clean, etc. Enfin, je veux dire, je sais pas, sur un match d'égalité, parce qu'on peut aussi imaginer ce finish-là où ils n'arrivent pas vraiment à se départager, pardon. Mais c'est assez rare quand même.
Il y a une stipulation covers. Ou pas?
Non, aucune stipulation pour l'instant. Et c'est pour ça que mon vote, c'est... Je vais plutôt être avec Hank sur ce coup-là. Je vois Velveteen Dream, puisque effectivement, Edun, il a déjà perdu une fois contre Aleister Black. Sachant qu'il n'y a pas d'enjeu de ceinture, il n'y a pas de stipulation. Donc je vois bien, effectivement, la victoire par grosse filouterie de Velveteen, histoire de le remettre un petit peu dans le côté aussi île de la force, puisqu'il peut avoir ce problème de île qui est trop over. Donc ça serait le bon moyen, et ça donnerait surtout une revanche logique, puisque le match n'a pas été dans les règles, donc il faut forcément savoir qui du prince ou du roi régnera prochainement sur NXT dans un match ou peut-être un prochain match sans disqualification, etc. Donc moi je vois bien effectivement Velveteen l'emporter d'une manière assez illesque, en tout cas pas clean, ça c'est clair. L'autre match qu'on aura takeover qui était dans ce tag team qu'on a vu ce soir-là, c'est forcément les deux meilleurs ennemis, hein, Johnny Wrestling contre Tommaso Ciampa. Ils en finissent plus de se tabasser, une fois sur deux, ils repartent en civière ou la gueule complètement en sang. Ils avaient déjà eu au dernier takeover du WrestleMania Weekend Nouvelle Orléans un match non sanctionné, hein, donc il y avait aucune règle. Et ben cette fois-ci, ils ont encore un match sans aucune règle puisque c'est un street fight. Voilà, donc du coup, cette fois-ci, qui l'emportera? IRM, qu'est-ce que t'en penses de Ciampa Gargano?
Là, ils ont... On pensait, enfin voilà, après leur match à la Nouvelle-Orléans, en tout cas, je me suis dit, bah, ça y est, on va passer à autre chose. Et en fait, non, c'était un autre chapitre dans cette longue histoire entre les deux. Jusqu'où ils veulent aller, je pense que là, on a... Alors, comment dire? L'histoire voudrait que Johnny Gargano est aveuglé et tombé dans le piège là, hein, de Tommaso Ciampa, qui a réussi à obtenir ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il a réussi à obtenir un deuxième match pour réussir à le punir, en plus avec une stipulation, il va pouvoir lui rendre la monnaie de sa pièce en le détruisant complètement, parce qu'il le détruit au fur et à mesure, là psychologiquement il l'a vraiment en termes de mind game, il lui a détruit le cerveau, il a réussi à presque retourner sa femme contre lui qui trouve que Johnny tu vas trop loin. Là je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de cette démarche et donner cette victoire à Tommaso Ciampa pour avoir un Johnny Gargano qui se rendra compte peut-être qu'il a été trop loin et qu'il était aveuglé et que ça l'a mené à sa perte. Donc pour moi c'est Tommaso Ciampa, le trou duc, qui va l'emporter.
Très bien. Et toi, qu'est-ce que tu vois, si le trou duc l'emporter ou tu vois Johnny Wrestling enterrer le... Non.
Okay. Ciampa gagne. Johnny fait en kayfabe un divorce avec Candice. Et le lendemain, il arrive à Money in the Bank pour je ne sais quelle raison. Non, mais...
D'accord.
Non, mais... comme je disais, j'ai des épisodes de retard, mais rien que sur le concept, je trouve que c'est un peu le match de trop. Je pense que justement, faut une victoire de Ciampa pour que ça soit un au revoir de 10 minutes de, enfin, j'exagère, mais un au revoir de 5 minutes de Gargano devant la foule, et que ce soit son dernier match avant d'arriver dans le roster principal. Je trouve que NXT a plus besoin de Gargano. Gargano est fantastique, mais NXT a plus besoin de Gargano. On a Aleister Black, on a Adam Cole, on a des mecs qui tiennent la baraque.
205 a besoin de Gargano.
Ouf. Malheureux.
Non, c'est bon, on leur a envoyé Leo Rush. C'est bon. donc voilà. Non, okay. je vois Ciampa gagner, puis Gargano arriver dans le roster principal dans les semaines qui viennent, j'espère.
Bah, je vois aussi Ciampa gagner, je suis d'accord avec tous les deux. Je ne suis pas aussi catégorique sur le départ de Johnny pour le main roster, parce que j'ai l'impression qu'ils ont mis beaucoup trop de choses en place dans la storyline, hein, en piquant Candice, en faisant allusion à plein de moments de vie partagée de tous les trois pour que ça se finisse juste comme ça. Surtout que la dernière fois, New Orleans, eh bien, ma foi, si Gargano perdait, il n'avait plus de contrat à NXT. Donc la sortie logique pour Gargano de perdre contre Ciampa et partir d'NXT, elle était déjà en place, elle s'est battue pour revenir, donc je sais pas, je suis pas convaincu, mais je ne dis pas, ça n'arrivera pas, hein. Mais en tout cas, Ciampa qui gagne, ça me semble effectivement la chose logique à faire. Revenons-en au Live in Paris, puisqu'on avait un match de titre qui était la suite du show. C'était eh bien, la championne en titre Shayna Baszler contre Nikki Cross, donc pour le titre féminin évidemment. Très grosse pop, hein, Nikki Cross au niveau de la foule. Baszler qui récoltait quand même plutôt des boos, même si les gens se calmaient, hein, parce qu'ils n'avaient pas trop envie de l'énerver, Shayna Baszler. Hein,
oui, c'est ça. Que, dès qu'elle commençait à te regarder parce que tu l'avais hué, tu faisais pardon, madame. Non, c'était pas pour vous, c'est pour l'autre.
Ouais, c'est ça. Donc, un combat assez étrange, qui a eu un rythme un peu lent, puisque Shayna Baszler a beaucoup joué le côté heel. Je fais des prises de soumission, alors que Nikki Cross enchaînait un peu plus rapide et faux dingo. Hein. Donc, elle mettra d'ailleurs son swinging fisherman neckbreaker du coin du ring sur Baszler, mais ça ne suffira pas. Point compte de deux, puisque Shayna Baszler a mis le pied sur la corde. Et donc, après, elle passera Nikki Cross dans la Kill Fuda clutch, hein, sa prise de soumission. Ça a duré très longtemps, jusqu'à ce que eh bien, l'arbitre décide de sonner la cloche, puisque Nikki Cross était KO complètement. Donc victoire et toujours championne. Shayna Baszler, qui t'a vachement impressionné aussi, Hank, hein, il me semble. Tu disais
physiquement.
Ah ouais, t'avais l'impression qu'elle avait qu'elle faisait 1m90, que c'était.
Non, en fait, non, mais en fait, je ne vérifiais, elle fait que 1m70. Alors ouais. Je ne sais pas si elle avait ses chaussures peut-être. Elle devait avoir des moon boots.
Non, après mais... 1m70, c'est pas impossible que ce soit une des plus grandes du roster féminin d'NXT. Hein.
Ouais. Le match en lui-même était pas oufissime, mais était, comme tu disais, il était un peu lent. Il y a eu des échanges qui étaient sympas, mais ça a été quand même assez court avant de longs passages de soumission. Donc ouais, le match pas forcément fantastique. Nikki Cross était très drôle et a fait du Nikki Cross classique, mais ouais, j'ai senti, mais peut-être que aussi c'est une incidence sur d'autres matchs, j'ai senti qu'ils étaient très limités par alors peut-être les filles l'utilisent moins, mais par justement le autour du ring, le fait qu'il n'y ait pas de barrière, que donc du coup tout doit se passer vraiment dans le ring, et il peut pas y avoir de Nikki Cross a pas fait, par exemple, de spot vraiment dangereux, je trouve. Et voilà, ils étaient très limités, je pense, à cause de l'absence de barrière et l'impossibilité de faire. Enfin, c'est pas impossible, mais c'était quand même un peu dangereux de faire des choses ringside parce qu'on est très proche du public et puis que voilà. Enfin, vous verrez si vous regardez les photos de l'arène, vous en rendez compte. Mais voilà, c'était correct, mais bon, ça m'a fait plaisir parce que voilà, j'ai vu Shayna Baszler et Nikki Cross et.
Et d'ailleurs, cool, mais... ton prono pour ce match takeover, hein,
Shayna Baszler.
Shayna Baszler, ok. Ouais. IRM, ton avis sur le match et ton prono?
Ouais, alors le match, pareil, c'était très contenu. On avait l'impression qu'on les a mis dans une petite boîte là et du coup, ils n'arrivaient pas trop à en sortir. Peut-être effectivement, voilà, les raisons données par Hank, c'est pas impossible. En plus, j'imagine qu'il ne faut pas exactement dévoiler ce qui va se passer lors du vrai match. Alors peut-être qu'on va un peu moins loin dans les spots et tout. Donc moi, j'étais un petit peu déçu sur le match. Mais alors par contre, j'ai adoré l'entrée de Nikki Cross. Elle est
complètement barrée. Elle a un vrai personnage. Pareil, quand elle arrivait, elle a fait comme Velvet in Dream. Elle a marché à un moment donné, elle est montée hein, sur les barricades qui étaient autour. Elle était juste en dessous de nous, là, on pouvait la voir. C'était complètement folle. Et quand elle est montée en plus sur la corde, la musique de Sanity, elle est formidable à entendre en vrai avec la lumière. Enfin, t'es excité, en même temps ça fait peur quoi. Il y a vraiment cet esprit de il y a tout qui va péter quoi. Et tu sais, elle était comme ça avec sa capuche, elle regarde le sol, elle est près des cordes comme ça, puis t'as la musique qui vient, et elle attend ce moment où il y a le rire diabolique et pour révéler son visage, et comme ça t'as une tension qui montait quoi.
Ouais.
Et
quand elle retire elle frappe les cordes 6 ou 7 fois d'affilée sans s'arrêter.
Elle monte son visage, elle hurle et tout. Enfin, c'était pour moi, c'était formidable. Et après, le charisme que j'aurais jamais pu deviner la première fois que j'ai vu Shayna Baszler arriver au tournoi, j'aurais pas mis une pièce forcément dessus. Elle a tout compris, hein, Shayna Baszler. Elle est impressionnante. Et je pense que ils lui ont mis vraiment l'adversaire parfait dans les pattes. Parce que, alors au début, je croyais que c'était un petit peu tôt, toi, de mettre comme ça un profil aussi over que Nikki Cross, assez compliqué, qui en plus arrive à dérouter Shayna Baszler, qui venait à peine d'être championne, conquérante, qui écrase tout. On lui met déjà vraiment quelqu'un qui arrive à la faire un peu disjoncter, quoi. Mais ça marche tellement bien. Et je pense, comme Hank, que le bon choix à faire, c'est de faire évidemment gagner Shayna Baszler. Parce que le Nikki Cross, ce dont elle a besoin, c'est de montrer qu'elle est complètement barrée, qu'elle arrive à rentrer dans l'esprit de n'importe qui. Et bon, voilà, après, elle est tellement chaotique que la victoire à la fin, c'est compliqué d'aller la chercher, quoi. Ouais. Donc, c'est le bon prono pour moi. Et ouais, bravo, Nikki Cross, c'est super, quoi. On comprend mieux pourquoi ils l'ont gardé un petit peu encore à NXT.
Ouais, bah pareil, hein, je suis d'accord avec vous. Je vois bien Shayna Baszler confirmer son titre et son règne de championne. Et après, par contre, j'emprunte ce que disait Hank tout à l'heure sur Gargano. Est-ce que, après cette défaite contre Baszler, est-ce que ça serait pas le bon moment pour Nikki Cross de rejoindre ses poteaux Sanity qui sont toujours pas arrivés à SmackDown et d'arriver ensemble, en fait, hein, je pense qu'ils l'attendent. Hein, parce que finalement, Nikki Cross, je la vois pas spécialement prendre le titre NXT. Elle a gagné clean. Enfin, chez Baszler, elle a gagné clean contre elle, comme on l'a vu, pas de la même manière, mais comme on l'a vu en live à Paris. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle aura d'autre à faire dans le roster? On l'a dit, la division féminine, il y a du monde. En plus, ils vont faire le Mayhem Classic dans pas si longtemps que ça. Donc du coup, je pense que c'est le bon moment pour faire rejoindre Nikki Cross avec ses poteaux tarés de Sanity pour une arrivée en fanfare à SmackDown. Voilà.
Plus un.
Ouais. Autre match, plus deux. Eh ben, écoutez, est-ce qu'on sera d'accord sur le prochain? Je pense aussi.
En tous les cas,
one, two. Et ouais, un, deux. En tout cas, on a tous vraiment apprécié ce match. Hein. Je crois que c'est clair, hein, puisque c'était un match pour, pour aucun titre, mais il y avait beaucoup de ceintures quand même dans le match. Hein, puisque d'un côté, on avait The Undisputed Era, donc le champion nord-américain Adam Cole Baby, et les champions par équipe Kyle O'Reilly et Roderick Strong, contre Pete Dunne, le champion UK, et avec un, deux. Oni Lorcan et Danny Burch, hein, donc un match qu'on avait déjà vu à NXT TV il y a quelques semaines de ça, qui s'est déroulé pour pas mal de finalement assez similaire. On a eu le même spot où les faces ont tous les trois les adversaires en prise de soumission, mais ça restait quand même très cool à voir en live. Donc voilà, clairement Adam Cole et Pete Dunne étaient les deux mecs les plus over du match, même si un peu tout le monde a eu ses moments, notamment Riley qui est arrivé en faisant sa air guitare avec la ceinture. Et donc sur le final, puisque forcément ça se bassonne un peu dans tous les sens, et bien c'est Pete Dunne qui place son bitter end, hein, sur son prise de finition sur Kyle O'Reilly pour le 1-2-3. Donc grosse célébration à la fin de Oney Lorcan et Danny Burch, puisque Pete Dunne, lui, il est invité à célébrer avec les autres, hein, sur le ring, mais il fait c'est bon, moi je me casse, hein, je vous laisse au petit moment, moi je reste quand même un peu un indépendant dans mon coin, allez salut les gars. Donc voilà, ce match était quand même ultra cool. Et comme tu disais, Hank, quand les Undisputed Era, les vraies stars sont arrivées, hein, c'était ton tweet, je crois.
Ouais. Tu me demandais mon avis.
C'est un lancement.
C'est le meilleur match de la soirée. C'était fantastique de bout en bout. C'était aussi bon dans le ring que ça l'était à l'extérieur du ring. Moi, le truc qui m'a fait poiler pendant tout le match, c'est Kyle O'Reilly. Dès qu'il prenait un coup et qu'il se taguait à l'extérieur, enfin, il prenait sa pause, il allait dehors et puis il faisait une longueur où, genre, il scellait devant tout le public. Il était genre, oh, j'ai pris un coup à gauche. Il était à moitié. Enfin, on avait l'impression, ouais, l'impression que le moindre coup lui brisait une partie de son anatomie. Adam Cole. Alors, j'étais presque en overdose de Adam Cole Baby, hein, parce que là, le public, ah ouais. Non, le public en sortait 300 minutes. Mais ouais, hein, c'était génial. Lorcan était bien explosif comme à son habitude, Pete Dunne physiquement impressionnant, des transitions. C'est pas vraiment un bémol sur le match parce que ça n'empêche pas d'apprécier le match, mais en prenant du recul, je me suis dit, on a parlé dans le podcast de 10 podcasts, par contre, c'est vraiment une dispute idéra qui était, enfin, le public était quand même vachement derrière une dispute idéra dans ce match. Et voilà, c'était un peu dommage pour
c'est normal
pour comme Lorcan
et... ils sont tellement cool quoi, Disputi Dera, mm-hmm. c'est les gars, t'as envie finalement d'aller boire des verres après le show avec eux quoi, et venez je vous fais découvrir Paris, on va dans des bars machin quoi. C'est ça.
Ouais, et puis j'ai vu Roderick Strong à 2 mètres de moi, lui aussi taillé comme une brique.
Ah ouais,
il transpirait.
Incroyable.
Mais ouais, ils étaient impeccables. Je voyais même les ceintures, j'aurais pu les voler, elles étaient à 5 mètres de moi. Les ceintures tag team.
Tu aurais pris laquelle? La tag team ou le US Champ?
Tag team. Tag team. Okay. Le UK Championship. Ah oui, non, le US, tu parlais. Ouais. Oui.
Ah, il y en avait plein.
Je pensais au UK, ouais. Non, mais ouais, non. Parce que le US n'a pas encore été vraiment confirmé, cette ceinture, elle vient d'arriver. Ouais. Mais. Après, ouais, non, non, j'ai rien d'autre à dire. C'était fantastique. J'ai du mal. C'est toujours le problème. Alors, je sais pas si pour vous, vous avez le même problème. Mais quand je vois un show en live, quand j'en reparle, j'ai du mal. J'ai beaucoup plus de mal à me remémorer les spots en particulier que quand je regarde un truc à la télé. Donc, du coup, j'ai plus. Voilà. Désolé si c'est pas très détaillé, mais c'était vachement bien.
Ouais, puis comme dit. Camille sur le chat, Shock the System, ce moment où la musique de Disputi Dera a retenti dans l'arène, moi j'ai popé comme un dingue quoi. Là aussi c'est tellement un moment ultra cool quoi, tu peux pas les huer à part quand, comme tu disais Irem, quand tu respectes effectivement, ok c'est les heels donc on va les huer quand ils font une saloperie etc, mais pareil quand on
ouais,
peut
mais
dire
font
bouh
tout pour
bravo
les
bouh bravo ouais. Toi, qu'est-ce qu'on a pensé du coup du match Irem?
Ouais, bah c'est aussi mon par rapport à ouais, c'est mon match préféré comme de la soirée. J'adore Velvet in Dream, mais après vraiment le match, l'intensité, là ça claquait fort en plus
les
avec
atémis, les kicks.
Ah ouais, des coups de boule de Monsieur Burch, qui c'était un plaisir de retrouver à nouveau. Et puis c'est qui c'est qui s'est pris la grosse mandale de Pete Dunne et qui a fait tout le ring, qui s'est projeté à travers tout le ring?
C'est O'Reilly, je crois. Ouais.
Sûrement O'Reilly, ouais, le roi du bum, quoi.
Le roi du sel.
Excellent. Ah ouais. Pete Dunne, c'est vraiment, j'adore aussi, enfin, c'est pareil, c'est un de mes chouchous. Ouais. J'adore qu'ils s'énervent et qu'ils font des bastons, des duels de coups de poing. Voilà, s'ils font des duels de coups de poing, c'est comme ça. Et que lui, sur sa manchette, Kyle O'Reilly qui parle au debout. Ça, c'était formidable. Ouais. Ça allait à 200 à l'heure, ça claque de partout.
Ça jouait le public, c'était. Enfin, non,
ouais, quand ils font, quand ils cassent les doigts, là, ça c'est génial parce qu'ils font le petit bruit de claquage de doigts en synchronisé. Alors tout le monde est là. Aïe, 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 mon Dieu, il lui a pété les phalanges. Et puis il y avait un petit peu aussi d'humour. Donc là, le dosage est parfait. T'as du badass, t'as de l'impact, t'as du charisme, ça déborde de charisme de partout, t'as des sales types, mais des types cool quand même.
Ouais, je voilà, pense qu'on puis... on est tous d'accord, effectivement. Enfin, pareil, c'était le match de la soirée, hein, celui que j'ai préféré de bout en bout pour les personnages, les superstars impliqués, ce qu'on a vu. Et est-ce qu'on sera tous d'accord sur le prono de TakeOver est-ce que, effectivement, vous voyez, vous aussi, eh bien, Enis Petit Dera garder les ceintures, hein, puisque moi, c'est mon prono. Hank
ouais. Vas-y, hein, vas-y.
Ouais, je les vois garder le... Je les vois garder les ceintures parce que c'est vrai que enfin quelle est vraiment l'histoire là-dedans. J'essaie de voir quel pourrait être l'axe, toi, en termes de storyline qui ferait que les deux autres Zigoto, les deux Anglais iraient les chercher. Je pense pas. On va juste leur mettre des gros gars costauds, enfin voilà, des bagarreurs, des mecs qui se battent dans les stades pour aller les chercher et vraiment leur montrer avoir un bon match, une grosse avec beaucoup d'impact, etc. Il faut encore montrer un petit peu qu'une dispute era, voilà, c'est encore des filous, qu'ils sont tous ensemble, ils arrivent à gagner, etc. On ne sait pas encore vraiment ce que va faire Adam Cole. Il sera là visiblement. Du coup, mon pronostic va vers une dispute Idera. Et juste, j'en profite pour poser ma petite question. Est-ce que c'est pas un peu dommage que justement la ceinture US et dans une moindre mesure la ceinture UK, mais surtout la ceinture US, ne soit pas défendue lors de ce takeover, puisqu'elle a été quand même lancée en grande pompe à la Nouvelle-Orléans. Je sais qu'il va la défendre à un show de la Evolve, je crois, Adam Cole.
Tout à fait.
Qu'est-ce que c'est? Voilà, est-ce que c'est pas un peu dommage? Moi, je trouve ça un peu dommage, mais...
Hank, voilà. D'abord ton prono, et puis après, réponds donc à la question de notre comparse.
La question du smart.
Ouais.
Donc, du coup, je vois pas du tout Lorcan et Burch prendre la ceinture aujourd'hui ou demain. Enfin, je veux dire... avant vraiment un changement de... ou du moins une précision sur leur gimmick, je pense qu'ils ont pas le... Ils ont les faveurs du public comme de très bons catcheurs, voire même presque vétérans. Je crois que Danny Burch, il a quand même une grosse carrière, quoi. Mais non, mais Undisputed Era, non, c'est pas Lorcan et Burch qui vont les retourner. Je pense qu'il va falloir attendre... comment il s'appelle, War Raiders plutôt, ouais. pour voir Undisputed Era trembler dans leurs bottes.
On a le temps.
Donc ouais, non, mais je vois pas qui d'autre, en fait. Je vois pas Heavy Machinery, je vois pas Street Profits. Donc voilà. Et sinon, la question, c'était quoi la question déjà?
Est-ce que c'est pas dommage que le titre US soit pas défendu, enfin nord-américain, pardon, pas US, nord-américain soit pas déjà défendu là au prochain takeover?
Bah ouais, mais c'est en fait, c'est soit on fait des storylines, ou soit, enfin, il y en a forcément un qui est sacrifié, en fait, si tu fais le match US, c'est-à-dire que soit Ricochet soit Velvetine est sacrifié, en fait, dans l'histoire. Ou alors tu fais encore un multi-man match sur l'US Championship. Mais
c'est ça, il y a toujours que 5 matchs dans le takeover, ce qui fait une bonne durée, qui donne du bon temps sur les matchs. Et c'est vrai que là, cette fois-ci, on a deux matchs qui sont pour des rivalités sans ceinture et des rivalités ultra personnelles, le Ciampa Gargano et le Ricochet Velveteen Dream. Donc forcément, comme disant qu'il y a un sacrifié, et ça sera la ceinture US, voire la ceinture UK. Ceci dit, vu l'interaction qu'on a vue notamment à Paris là, et qu'on voit à la télé depuis quelques semaines, il n'est pas étonnant qu'on voit Adam Cole ringside, qui a une intervention, et que Pete Dunne, à mon nez, ramène son bout d'anglais pour essayer de rééquilibrer un peu les forces. Donc tout ceci peut aboutir tout simplement à un match UK contre US, Adam Cole contre Pete Dunne aussi, peut-être pour le prochain takeover ou un prochain NXT TV. Quoi. Donc,
c'est ça qui concerne beaucoup de ceintures. Ouais. À NXT.
Ouais, mais en même temps, voilà, c'est il n'a pas tant que ça, hein, finalement.
Il y a le tournoi UK aussi qui arrive. Je sais pas quand il se termine, je me souviens plus. Mais c'est dans. Ça doit être fin juin.
Exactement. Voilà. Bon, dernier match de la soirée de ce gros live in Paris. Forcément, on a le champion de la NXT, Aleister Black, qui sera arrivé sans son cercueil, évidemment, mais quand même avec une pop de malade. Sa musique en live est juste énorme. Enfin, moi, j'adore, je suis gros fan. Contre le troll des montagnes, comme l'appelle Giscard, hein, donc Lars Sullivan. Voilà, un match pendant lequel le champion s'est fait quand même dominer, malmené par la puissance de Lars pendant une grande partie du match. Il aura bloqué à nouveau de ses mains gigantesques le Black Mass qui avait été donné très tôt par Aleister Black. Tout ceci arrivant à un moment donné où Lars Sullivan met un freak accident, donc sa prise de finition à Aleister Black. Aleister Black se dégagera au dernier moment in extremis. Lars Sullivan, frustré et énervé de ne pas avoir gagné, va tout simplement agresser l'arbitre qui sifflera une disqualification pour le plus grand boue qu'on a entendu de la soirée. Hein. Le public a vraiment pas aimé cette fin, ce finish en disqualification. Lars Sullivan ne restera pas là, il ira chercher une table sous le ring. Là, le public a applaudi, du moins était content, la placera, essaiera de récupérer Aleister Black pour lui mettre un freak accident à travers la table, mais Aleister Black se réveillera et ce sera finalement un Black Mass qui enverra forcément Lars Sullivan à travers la table. Donc là, pareil, hein, une pop, je pense, peut-être la plus grosse pop de la soirée, hein, d'avoir vu ce gros monstre passer à travers la table. Donc forcément...
Non, moi, je ne l'ai pas vu, hein, de là où j'étais.
Ouais, c'est malheureusement... Tu peux
voir les fesses de Roderick Strong et en plus, voilà. Voir les... Lars Sullivan passer à travers la table.
Tu peux pas tout avoir.
Les fesses de Lacey Evans, pas de Roderick Strong.
Écoute, t'as vu les deux, as-tu?
C'est ça. T'as vu les deux. Donc voilà. Et puis Aleister Black, à la fin du show, prendra le micro et adressera un petit mot public, puisqu'effectivement, à l'époque où il se faisait appeler Tommy Yann, qui était indépendant européen, hein, puisqu'il est néerlandais, il a pas mal catché en France. Hein. Il rappellera que la France a une place particulière dans sa carrière de catcheur. Et donc, du coup, voilà, qu'il remercie tout le monde d'être là, que ce premier show était grâce à nous tous, puisqu'on est tous NXT. Et tout le monde est parti content. Content du show global, je pense que oui.
NXT.
Mais est-ce qu'on est parti content de ce match de clôture? Quel est votre avis? Vas-y, Irem.
Ah, bah écoute, ouais, je pense que tu poses pas la question innocemment, mon bon amiral. Effectivement, alors, il faisait super chaud dans la salle, et en plus, ce match a un peu refroidi l'ambiance. En fait, à un moment, le match début... Alors, l'intro, c'était la folie. L'intro de, enfin l'arrivée de Aleister Black, enfin basse à fond, c'était même un petit peu, peut-être un peu trop fort, mais la musique est ouf quoi. Amiral, il était debout, il a retourné les chaises dans la loge, c'était la folie. Mais alors après, quand le match a commencé, pas beaucoup d'alchimie entre les deux, beaucoup d'approximations, c'était pas très surprenant, original ou travaillé, toi. Clairement, il voulait juste arriver à la disqualification, parce que voilà, évidemment qu'on veut pas prendre de décision ce soir, elle sera prise dimanche. Voilà, et après le spot de la table, c'était pour nous dédommager. Mais clairement, il y a eu un long moment quand même, du moins ça a paru long, où on n'entendait rien. On n'entendait rien du tout. Je pense que le public s'était un peu épuisé avec l'entrée en plus d'Aleister Black et qu'on avait du mal à rentrer dans ce match qui était un peu trop approximatif avec une alchimie pas dingue. Donc moi, ouais, j'étais déçu du main event. Pas de la fin, en fait. Je trouvais que la fin était vraiment bien trouvée, intelligente. Et en plus, voilà, que ce spot dans la table, parce qu'il faut se rendre compte qu'on est allé des milliers de kilomètres à la Nouvelle-Orléans, on n'a pas vu de table se briser, il faut qu'on aille au cirque d'hiver pour voir un mec passer à travers une table. Donc voilà, on va réviser un petit peu nos budgets, comment on dépense notre budget à WWE.
Si à Takeover, on a vu une table se briser, non?
Ouais, table de commentateur, mais il n'y avait pas de table...
Ah d'accord, il faut une table spécifique.
C'est ça, bah, bring the table.
C'est ça, des tables qui sortent du ring, quoi. Les seules uniques.
Oui, évidemment. Table de commentateurs, on les compte plus, c'est useless. Mais voilà, donc ouais, on ressort content, mais surtout grâce au show plus que le main event en lui-même.
Et toi, Hank?
Ouais, non, c'était bizarrement le main event était la seule Déception que j'ai, enfin de match décevant que j'ai eu de la soirée, même si j'ai mes reproches à droite à gauche sur certains matchs. Celui-là, j'en attendais, voilà, enfin c'est censé être le main event, c'est la première fois que je vois Aleister Black en live. J'attendais quelque chose de plus, voilà, de plus excitant. J'ai trouvé que ouais, c'était mou, c'était et ça manquait terriblement de ça manquait de suspense en fait. Il y avait pas, même si Lars Sullivan dominait, puis il y avait quelques moments des petits retours d'Aleister Black, mais c'était voilà, ça manquait vraiment d'explosivité. Est-ce que une nouvelle fois ils ont un peu dû réadapter leur match vis-à-vis des conditions autour, peut-être. Je ne sais pas, mais n'empêche que le show a terminé en avance. Il devait terminer à 21h15, il a terminé à 21h, si je ne me trompe pas. Et puis voilà, ça laisse une impression un peu. On était tellement contents d'être là qu'on n'était pas en train de. Voilà, c'était pas non plus la catastrophe, mais voilà, ça laisse une impression de match qui aurait pu être tellement plus que ce que c'était. Lars Sullivan même Lars Sullivan a fait des choses bien mieux à NXT. Je dis pas qu'on est censé avoir un match de pay-per-view, mais. Voilà, il manquait vraiment des spots dans ce match, il manquait de la tension, il manquait des near fall, il manquait
est-ce que tout ça on l'aura chose. Pas est-ce qu'on aura pas tout ça samedi pour leur match pour le titre à TakeOver,
oui,
hein,
voilà. Même là,
il y a intérêt que ça soit pas la même chose, hein, et du coup en partant du principe que on aura un vrai match avec donc, du coup des vraies séquences et une construction plus longue. In fine, qui repartira de Chicago avec la ceinture NXT Champion, Lars Sullivan ou Aleister Black? Hank, vas-y, tu mets ta tête sur qui? Aleister.
Pour moi, ça serait une grosse surprise qu'ils mettent la ceinture sur Lars Sullivan. Aleister vient. Après, c'est un peu la même logique que tout à l'heure, quoi. C'est Shayna, Aleister. Bon, c'est des nouveaux champions, donc pourquoi vous n'allez pas leur voler enfin leur faire perdre la ceinture tout de suite. Et puis, je pense que Aleister Black a beaucoup plus à donner en champion. C'est peut-être pas la meilleure cible, Lars Sullivan, comme premier match après avoir gagné la ceinture, ouais. Je trouve. Mais bon, on va voir. Peut-être qu'il va me surprendre samedi. Mais alors, pour le coup, si Lars Sullivan fait un très grand match samedi, je vais quand même gueuler et dire: putain, t'as rien branlé lundi. Connard.
C'est maintenant que tu te réveilles. Trop duc.
Donc voilà, mais oui, non, Aleister dans un bon vieux match où il va se faire valdinguer avant qu'on commence à avoir un vrai échange au bout de 5-10 minutes.
Ouais, bah pareil, hein, je vote Aleister Black, hein, pour à peu près les mêmes raisons que tu donnes, hein, trop tôt pour le faire changer de ceinture, il faut qu'il entérine son règne de champion, même si ça nous fait, du coup, vu nos pronos majoritairement, aucun changement de ceinture annoncé pour TakeOver.
Personne ne change, ouais.
Voilà. Mais attends, Irem, est-ce que tu es d'accord avec nous, Aleister Black
victorieux? Je vais pas changer la tendance, et c'est vrai là où autant pour Nikki Cross, j'étais agréablement surpris parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre de lui mettre une folle dingo comme ça dans les pattes de Baszler aussitôt, qu'il l'a déstabilisé tout. Autant là, je me fais un peu la même réflexion, c'est-à-dire que je me dis, c'est bizarre ce premier first contender pour Aleister Black, parce qu'on montre que, grosso modo, il a trouvé un peu la faille, toi, il arrive à arrêter le Black Mass. Donc, oh, c'est un nouveau challenge. Pour le champion, mais un champion tout récent, enfin tout neuf, tout frais. Et par contre, je me dis pas, ah, ils ont bien fait de le faire, parce que bah, de ce qu'on a vu pour l'instant, ça marche pas trop. Donc
Ouais, j'espère que Aleister Black va continuer et apporter tout ce qu'il peut apporter à NXT en tant que champion, quoi. Ça c'est sûr. Donc ouais, pas de changement de ceinture en fait.
Bah ouais, mais c'est pas très grave. Hein. Si les champions sont mis en place,
ce sont des choses qui arrivent.
Exactement, exactement. Et ben voilà qui fait la totalité de ce très cool show qu'on a vu à Paris et donc cette carte de takeover qui s'annonce bah, comme d'habitude de façon un peu pay-per-view avec plein de promesses et plein de bons matchs. Pour la petite info, donc on avait croisé quand on a parlé des l'équipe de 10 podcasts hein, avec qui on a fait un petit débrief à chaud. Donc Giscal, Hank, moi il y avait aussi Darren de Voxcatch. Etc. Donc n'hésitez pas à zioter de leur côté pour voir ce podcast là, du moins l'entendre. On le relaiera de toute manière sur notre page. Quelle page? Bah, la page Twitter, @catchupcdc. Même chose @catchupcdc pour Facebook, pour l'audio, iTunes et PodCloud, on y est présent. Et pour savoir bah, quand est-ce qu'on fait des podcasts, abonnez-vous là maintenant sur la page YouTube, cliquez sur la petite notification pour avoir tout ça, puisqu'on a un programme effectivement très chargé, n'est-ce pas IRM? Le supplément SmackDown, c'est quand?
Bah c'est demain midi.
Demain midi, supplément SmackDown. Après, il y aura peut-être un pré-show pour Money in the Bank.
Ça faut qu'on se coordonne. Comme tu dis, c'est bien chargé.
Ouais, parce qu'il y a pré-show. Et puis après, forcément, des reviews de Money in the Bank, de TakeOver. Et puis, comme d'habitude, Raw, SmackDown la semaine prochaine. Tout ça. Donc voilà. Abonnez-vous, comme ça vous serez au courant de tout. On remercie ben, tous les valeureux poteaux qui étaient sur le chat, hein, comme d'habitude, de Camille, Richard, Galuf et les autres. Hein. Donc merci encore d'avoir été là. Et puis merci Hank qui est fatigué de son retour en bus. T'es pas trop burn it down là. Hein. C'est sleep it down.
Je suis burn out là. Je suis burn out down.
Banane.
Ouais, mais merci d'avoir présenté.
Un plaisir. Et merci IRM aussi d'avoir été là, d'avoir enchaîné après le podcast sur Raw. Voilà, j'espère que c'était un peu plus enthousiasmant quand même que. Que le show en ce moment qui est un peu sur la des.
Ce qu'on n'a pas dit par contre, c'est que à la fin du show à Paris. Alors peut-être c'était du bullshit, mais ils nous ont dit ne vous inquiétez pas, c'est pas la dernière fois. Ouais. Donc pour les gens qui étaient pas là, qui regardaient le podcast ou qui écoutaient là maintenant et qui étaient pas là, vous pouvez espérer un nouveau NXT à Paris bientôt, même si la salle était remplie
pas pleine.
Aux trois quarts quoi.
Était pas pleine, mais en même temps c'est un lundi. C'est période de grève et c'est période aussi d'examen, bac, etc. Donc, trois raisons peut-être pour lesquelles c'est pas
et
non plus sold out. Quoi. Donc voilà, dans tous les cas, s'ils reviennent, on espère qu'ils reviendront, n'hésitez pas. Franchement, pour le prix, vous avez des places qui sont juste géniales. Et puis voilà, quoi, ça reste un show qui est vraiment très, 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 très cool. Et puis, on croise Julien Lepers.
Il y a Camille sur le chat qui demande la revue de Dominion.
La revue de Dominion, bah ça faut voir parce qu'il y a le bon Ringside qui est en congé dans le sud en ce moment.
Ah oui, mais Ringside, il est parti.
Ça arrivera peut-être plus tard, hein, Dominion, avec le programme
VVE. Il y aura un gros décalage.
On la fera, mais pas de suite. Mais bon, tu sauras parce que tu es abonné. En tout cas, merci à tous. Bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et un gros week-end, surtout plein de catch. À la prochaine, salut.
Salut.